Alors, on dit quoi?
Wassalam alaikum les amis, très heureuse de vous retrouver dans Alors on dit quoi aujourd'hui. La semaine dernière, vous avez pu entendre les témoignages de Anya, Adélaïde et Maïvan sur ce traumatisme qu'est le viol. Ce samedi, nous faisons place à celles qui tentent de se battre au quotidien pour continuer de vivre après avoir été violées. Le viol porte très gravement atteinte à l'intégrité physique, morale et psychique de la personne. Les agresseurs peuvent frapper n'importe qui et avoir pour même conséquence des traumatismes majeurs, problèmes de santé mentale, surtout des états dépressifs ou suicidaires, des problèmes de sexualité ou de reproduction et des troubles lors de la maternité. Les répercussions psychologiques, physiques, économiques et sociales sur la vie des victimes sont considérables. Après ce traumatisme, c'est tout un chemin de reconstruction qui débute. Viol, ma vie d'après, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi?
Alors on dit quoi? Avec Diarra Ndiaye.
Et je vous présente mes invités, trois membres de l'association Les Résilientes, association qui, je le rappelle, aide les victimes de violences sexuelles et qui est basée à Paris et que je remercie au passage pour l'accueil. D'ailleurs, et je suis en compagnie de nouveau avec la présidente et fondatrice de cette structure, Anya. Bonjour Anya.
Bonjour Diarra.
Je suis également aux côtés de deux membres de l'association, Daphné d'abord. Bonjour Daphné.
Bonjour Diarra.
Et bonjour enfin à Pia.
Bonjour.
Merci infiniment les filles d'avoir accepté cette invitation. Merci de prendre part à notre émission Alors on dit quoi? Merci vraiment d'être avec nous pour parler de ce sujet difficile. Je parlais à l'instant de cette formidable association Les Résilientes, une structure qui propose parmi ses activités des groupes de parole sur Paris afin d'encourager la libération de la parole des femmes ayant subi des viols ou violences sexuelles. Nous avons justement assisté à l'un de ces ateliers. Reportage de Lina, notre correspondante à Paris.
Il est 19h quand, les unes après les autres, huit femmes poussent la porte d'un studio parisien caché au fond d'une cour. Elles ont toutes des vies et des parcours différents, mais ce soir-là, elles sont réunies pour la même raison. Ces femmes participent à un atelier organisé par l'association Les Résilientes, un groupe de parole pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles. Ce soir, elles prennent part à un atelier d'écriture animé par Cécile.
C'est parce que ça m'a servi que je me suis dit peut-être que ça pouvait leur servir aussi. Et l'écriture en tant que telle, ça permet de relâcher des tensions.
À travers cet exercice, Cécile cherche à transmettre ce moyen d'expression sous-estimé qui permet à certaines de se débarrasser d'émotions trop lourdes à porter.
Si vous n'arrivez pas à faire l'une ou l'autre des choses, c'est pas grave. Si vous arrivez à mettre, pas de mots, mais un dessin, c'est pas grave. L'idée, c'est de sortir quelque chose. Peu importe ce que c'est, mais sortir quelque chose.
Il y a eu une période, il y a quelques années, où j'écrivais beaucoup, et ça me faisait énormément de bien sur mes ressentis, mes émotions, tout ça. Mais depuis environ 2 ans, j'y arrive plus du tout. Et du coup, j'ai envie de me reconnecter un petit peu avec ça, parce que je sais que ça me faisait beaucoup de bien, et j'aimerais y arriver à nouveau.
Moi aussi, j'ai beaucoup de mal en ce moment à écrire et à me concentrer vraiment et à pouvoir écrire conformément à mes ressentis, mais en même temps de pouvoir être intelligible, de pouvoir être compréhensible, quoi.
Je pense que si déjà j'arrive à l'écrire, ça peut être un peu plus simple d'en parler.
L'exercice du jour, écrire une lettre à une personne qui leur a fait du mal. Elles s'adressent directement à leur agresseur ou à des gens de leur entourage qui ne les ont pas crus et ont contribué à accentuer leur douleur. L'idée est de coucher sur le papier tout ce qu'elles auraient aimé pouvoir leur dire à voix haute. Courageusement, l'une après l'autre, elles racontent leurs histoires sous le regard bienveillant des autres participantes.
J'ai peur, mais comme je l'ai dit, les habitudes ont la vie dure, à tel point que quand je vois ton deuxième visage, il est trop tard. Tu me retournes et tu me violes. Sur le chemin du retour à vélo, j'ai mal. Je me regarde dans le miroir en me demandant si j'existe. Je m'endors en espérant que c'est un cauchemar. Mais tu vois, je n'arrive pas à me réveiller.
Toi, mon agresseur, cela fait 34 ans que tu me hantes. Tu as semé la merde dans ma vie. Une vie de jeune fille de 18 ans. Tu lui as fait perdre son innocence. Merde, merde, merde. Fais-toi couper la bite et enfonce-toi là dans le fond de la gorge et crève avec.
L'exercice est libérateur, mais éprouvant. Remonte à la surface des sentiments qu'elles avaient enfouis. Certaines ne peuvent retenir leurs larmes.
Ben, c'est comme si j'avais eu un pushing ball juste en face de moi, quoi. Mais que j'ai pas tapé assez dedans, quoi. En vous parlant, je vois encore les images et j'ai encore son odeur dans le nez. Enfin, c'est ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Au bout de 34 ans, ça fait quand même loin.
Beaucoup n'ont pas mesuré l'impact qu'aurait un tel exercice. Cela leur aura permis d'évacuer la colère trop intense à contenir, se libérer et comprendre des choses sur soi.
Sentir ce qu'on a ressenti au fond de nous. Toi, tu as réussi à le faire. D'ailleurs, tu as pleuré. Le jour où j'arrive à pleurer de ce que je dis, ça va être génial, mais là, j'y suis loin.
Partager ses émotions sur le papier, c'est un déclic, un premier pas vers la guérison. Car ce que l'on sort par l'écriture, on n'a plus besoin de le ruminer.
Quand j'écrivais tout à l'heure, je disais que 20 minutes, c'était pas beaucoup, parce que j'avais pas fini, et en fin de compte, c'est comme si ma main écrivait toute seule.
L'association Les Résilientes instaure un espace d'entraide, d'échange, un endroit sécurisant, où l'on peut partager son récit en toute intimité.
Quand je suis arrivée sur Paris, j'ai pensé que pour m'en sortir, le psy ne suffisait pas. C'est-à-dire que c'était une parole certes neutre qui me faisait du bien, mais que je pensais qu'en étant entourée de femmes qui voulaient se reconstruire, qui voulaient avoir un parcours de reconstruction, je pensais être mieux comprise et puis aussi avoir, ne pas seulement m'écouter moi, mais aussi écouter les autres. Mais au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très peu sûre de moi. Je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui va être compris ? Il y a, comme je disais dans mon récit, il y a une espèce de honte un peu encore de penser à l'agresseur. Et au final, ça m'a fait énormément de bien de l'écrire pour moi, parce que je me suis rendu compte, en fait, je me suis avoué des choses qui étaient dans ma tête. Et ça, de les coucher sur le papier, ça m'a permis de confirmer des choses avec moi-même. Et ensuite, de le lire, de le partager avec ce que j'ai l'impression que ce sont des gens comme mes sœurs, un peu. Ça m'a fait énormément de bien, même si c'était voilà, beaucoup dans l'émotion. Et puis, il y a aussi écouter les autres. On oublie souvent dans un atelier d'écriture, mais écouter les autres, c'est très douloureux parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler la douleur de l'autre. On se reconnaît en lui, mais en même temps, il faut aussi se mettre à distance. Et on a envie voilà, d'accompagner, de poser des questions. Donc c'était un moment très fort qui m'a fait du bien. On est obligé de se confronter à toutes ces pensées qu'on fait sans cesse disparaître. Et donc, effectivement, on reprend le pouvoir qui nous avait déjà été enlevé par notre agresseur, en fait.
Sans se connaître dans la vraie vie, ces femmes sont d'un soutien primordial les unes pour les autres. À travers le récit de chacune, elles réalisent qu'elles ne sont pas seules.
J'ai enfin trouvé un lieu où je pouvais m'exprimer et qu'on m'entende et qu'on ne me juge pas, quoi. Et qu'on ne me dise pas « non, c'est pas vrai ».
À la fin de l'atelier, elles repartent avec une sensation d'apaisement, de réconfort et de reconnaissance.
J'apprends qu'il y a des gens bienveillants, quoi. Tout le monde n'est pas sadique. Et qu'il y a des lieux pour vous écouter et vous croire.
De la bienveillance, de l'écoute, vous avez réussi à créer un environnement apaisant pour toutes ces femmes, Anya. Quand vous entendez ce reportage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
En fait, je suis très touchée de réentendre ce reportage parce que j'étais présente à l'atelier écriture et d'entendre le résumé en fait, de 2 heures en quelques minutes et... d'entendre aussi les échanges que je n'avais pas entendus parce que le groupe était divisé en deux, donc ça me touche profondément. Je ne doute pas de la puissance de l'écriture, en fait, et je sais que ce type d'atelier doit être continué. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur de partager avec les personnes qui viennent à l'association.
Mmh. L'association propose de nombreuses activités, dont cet atelier d'écriture, piloté par vous et par Cécile, qu'on a entendu dans le reportage. Pourquoi est-ce primordial de l'intégrer dans le processus de reconstruction ?
En fait, j'estime qu'un parcours de reconstruction, ça a de multiples facettes. C'est vrai que voilà, un parcours thérapeutique, c'est utile, mais comme on l'a entendu dans le reportage, ben, parfois, pour certaines personnes, c'est pas suffisant. Le fait d'avoir un endroit pour partager avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, moi, je trouve que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel dans un parcours de reconstruction. Se sentir comprise, dans un espace où il y a beaucoup d'entraide, de sororité, de non-jugement. En fait, on a besoin d'échanger avec des personnes qui peuvent nous comprendre et ça, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est des choses qui me tiennent à cœur de créer cet espace-là et de créer d'autres activités parce que il faut additionner en fait un peu ces parcours, voilà, une thérapie, des groupes de parole, l'écriture par exemple, je fais aussi des ateliers sur la gestion des émotions, sophrologie, méditation, yoga très prochainement, l'année prochaine un atelier théâtre, voilà, parce que j'ai la chance de rencontrer des bénévoles qui sont touchés par ma cause en fait, et j'estime que tout ça, ça fait partie de la reconstruction, donc en fait chacune pioche en fait ce qui l'aide, hein. Je dis pas que ça, l'écriture aide tout le monde ou que le yoga aide tout le monde, mais en fait il faut tester et voir ce qui marche pour soi, prendre un peu à droite à gauche et faire son propre parcours parce que c'est quelque chose d'unique.
Daphné, vous avez vous aussi participé à l'un de ces ateliers et quand vous entendez que vos autres camarades sont soulagés en sortant de ces ateliers, qu'est-ce que ça vous fait ?
Ben, c'est quelque chose qui fait écho, évidemment. C'est vraiment énorme le soutien qu'on peut ressentir, une sorte d'expérience commune, de connaissance en fait sur le monde qu'on partage. Et puis le fait de pouvoir avoir des références communes et partager à travers des outils créatifs qui sont un peu peut-être pas toujours utilisés, pas toujours mis en valeur non plus, enfin, et trouver cet espace voilà de liberté, de
mm-hmm. vraiment. À quoi est-ce que vous vous attendiez vous en vous inscrivant à ces ateliers?
Je m'attendais à pouvoir mettre les mots, à pouvoir voilà faire du sens de mes expériences et aussi de partir de mes ressentis. Par exemple, on parle souvent enfin d'agression sexuelle oui. ou bien de viol, et puis la seule différence ce serait la pénétration. Mais il y a d'autres manières d'appréhender les expériences, enfin à travers les biais créatifs, on trouve des manières plus singulières et on se retrouve vraiment dans ces expériences, et donc ça permet de, voilà, on peut se réapproprier en fait ce vécu.
Pia, je vous vois justement partager le point de vue visiblement de Daphné. Pourquoi vous participez à ces ateliers? Que vous procure-t-il concrètement?
C'est vrai que j'ai choisi de participer à ces ateliers parce qu'en effet, enfin, c'est un peu ce qui était dit dans le reportage, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de d'un coup avoir une... Enfin, un savoir empirique commun, on n'a pas toutes les mêmes expériences, on n'a pas toutes vécu la même chose, mais il y a quelque chose d'assez étonnant de voir comment d'un coup on se sent relié quand même les unes aux autres. Et c'est vrai que c'est un peu ce dont on parlait avec Daphné, c'est ce côté où quand on en parle à des gens à l'extérieur, on a souvent cette impression parfois que les mots sont vides de sens. Que ça soit pour nous, parce que ça soit le mot viol ou agression sexuelle, en effet, parfois, ça dit tellement rien de ce qu'on a vécu qu'au final, c'est un mot qui peut, enfin, qui parfois n'a pas de résonance, quoi, enfin, et alors qu'on voit que de l'autre côté, ça peut en avoir une très forte ou à l'inverse. Et d'un coup, ici, c'est un peu l'inverse. On entend des personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, mais qui parlent, et ça fait écho à ce que nous, on ressent. Et c'est très empouvoirant, c'est très fort, quoi, d'un coup, d'entendre quelqu'un parler, de se dire « Ah, j'ai l'impression que je pourrais dire ces choses-là mmh. » ou que je comprends sensoriellement ce qu'elle ressent, ce dont elle parle.
Au-delà de ce groupe, vous, Pia, pour votre histoire, vers qui vous vous êtes tournée pour raconter ce qui vous est arrivé ?
Je ne l'ai pas beaucoup raconté dans ma vie. Ça a pris du temps un peu avant d'arriver à, de nouveau, pareil, avant de mettre des mots dessus, enfin, d'arriver à faire la paix avec moi-même sur ce qui m'était arrivé et à sortir du déni. Donc, ça a pris du temps et, en fait, c'est parce que mon agresseur m'a recontacté que d'un coup, j'en ai parlé autour de moi et, à ma coloc, à...
Un proche à vous?
Ouais,
vous avez violé.
Ouais,
que s'est-il passé, Pia?
En gros, c'était mon ancien, c'était un amant, on va dire. Et mes résultats, ça tombe un peu dans le viol conjugal parce que c'était quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais des rapports sexuels. Donc ça s'est passé un soir où on s'est disputé et où je voulais pas que, enfin, je pleurais. Enfin, c'était très chaotique, quoi. Et puis il est quand même resté chez moi, on devait dormir ensemble, et pendant la nuit, en gros, il m'a forcé, quoi. Et le lendemain, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Sur le moment, j'ai réussi à lui dire pourquoi tu m'as forcé, et je me souviens qu'il avait juste soupiré et levé les yeux au ciel. Et après ça, cette relation s'est arrêtée. J'ai vu un psy à l'époque, mais c'était pas en France. Donc elle a pas pu me suivre parce que mais c'était pas, enfin elle était pas en capacité quoi de le faire. Et en fait, à partir de là, j'ai un peu tout abandonné. J'ai décidé que j'avais tout inventé.
Une phase de déni.
Ouais, complètement. Que c'était moi qui avais dramatisé, que c'était pas vrai, et j'ai recommencé une relation avec ce garçon-là. Donc c'est pour ça que ça a été très long et très compliqué, parce qu'en fait, je me suis tellement malmenée, j'ai tellement pas réussi à faire face à ce qui m'était arrivé, que ça a pris du temps. Et donc voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps, c'est arrivé il y a 7 ans, et j'ai eu tout un parcours d'essayer de... Enfin, c'était beaucoup avec moi-même, au final, enfin, d'arriver à mettre le mot dessus, d'arriver à entendre d'autres histoires, puis mon éveil féministe a forcément un peu...
Jouer.
Ouais, complètement. Mm. Là-dessus, lire des livres, enfin... Et donc là, récemment, il m'a recontactée, et c'est ça qui, d'un coup, m'a fait me rendre compte qu'en fait...
Quelque chose n'allait pas.
Ouais. Mm. Et qu'il fallait que j'acte là-dessus, en fait, qu'il fallait que je reprenne possession de ce qui m'était arrivé, que je fasse un travail...
C'est comme ça que vous vous êtes inscrite, justement, ouais. à cette association.
Ouais, c'est comme ça que je me suis inscrite, ouais.
Anya, une réaction par rapport à ce choix d'activité et l'apport justement de l'écriture. Est-ce que ces ateliers doivent être accompagnés de d'activités complémentaires, une thérapie ou autre ?
Alors c'est vrai que la plupart des participantes suivent aussi un parcours individuel de leur côté, donc thérapie par exemple. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour participer à mes groupes de parole. Je veux dire, en fait, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de très puissant, et l'écriture a des vertus thérapeutiques, ça, c'est indéniable, en fait, c'est sûr et certain. Et le pouvoir des ateliers d'écriture, c'est de pouvoir, en fait, se réapproprier son histoire, en fait, écrire son histoire avec ses mots, c'est-à-dire devenir l'héroïne, le héros de sa propre vie, ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ne plus survivre sa vie en mode victime, mais d'être l'héroïne de sa vie. Et moi, ça m'a énormément aidé, l'écriture, dans mon parcours. Moi-même, j'ai fait une thérapie d'un an, ça m'a aidé, mais l'écriture, ça, c'est sûr que ça a accéléré ma reconstruction, de pouvoir me réapproprier mon histoire et de mettre des mots dessus, et ça évite de devoir ruminer tout le temps et de devenir acteur de sa vie. Mm-hmm. C'est ça le rôle de ces ateliers.
Daphné, on vient d'entendre Anya dire que vous avez fait ça pendant un an, du coup, l'écriture, et vous continuez ces ateliers d'écriture, et à quel moment ils prennent fin, finalement, ces ateliers ? À quel moment on se dit « j'en ai plus besoin » ?
Ben, je pense que c'est souvent quelque chose qui accompagne, en fait, quand on vit ce genre de choses. Moi, j'ai vécu une agression pendant, enfin, très longtemps, répétée, quand j'étais enfant. Et en fait, c'était pour moi l'écriture, la peinture, les collages, le théâtre, la danse. Tout ça, ça a pu ponctuer ma vie, et ça a vraiment été une partie intégrante de qui j'étais, même en tant qu'enfant, et de ma capacité à rebondir au quotidien, vraiment. Et pouvoir accéder à un certain degré d'autonomie aussi, enfin, d'avoir l'impression d'être actrice de ma vie, mm-hmm. vraiment de...
D'être le héros de sa vie, comme
voilà.
Le disait
Anya. Ouais.
Ou l'héroïne, pour le cas de cette émission. Vous parliez tout à l'heure de votre viol que vous avez vécu jeune, très jeune, un membre de votre entourage.
Oui, c'était mon frère aîné, de 4 ans, plus âgé que moi. Donc c'est le genre de, je pense, de vécu qui n'est pas forcément... considéré en tant que viol, ou c'est parfois certaines personnes peuvent penser que c'est normal, en fait, que c'est des jeux d'enfants, que c'est du touche-pipi, ce genre de choses-là. Mais en fait, il y a quelque chose de profondément déstabilisant. Ça dépend aussi de la nature de la relation. Là, c'était une relation très violente physiquement aussi, et mentalement. Enfin, j'étais sous son emprise psychologique. Et du coup... je pense que c'est important de parler de ces vécus-là, et de vraiment mettre le mot viol. Voilà, même si la personne est mineure, ça compte aussi. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le manque de mots, parce que voilà, la seule différence entre un viol et une agression, c'est la pénétration, mais il y a une emprise qui est bien plus importante. Enfin, il y a aussi le facteur psychologique, qui n'est pas, je pense, à mettre de côté. Et puis, tout n'est pas objectifiable, en fait. Et je pense que c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans tout ce qui est expression artistique. C'est que, en fait, je pars de mon ressenti, de mon vécu, et donc il n'y a pas de grille de lecture qui peut catégoriser en fait ce que j'ai vécu, enfin qui peut qui limite.
C'est d'ailleurs c'est difficile la première fois qu'on essaye de poser les mots sur cette feuille. Est-ce que ça s'est sorti finalement directement pour votre cas, Daphné? Est-ce que ça a été une étape vraiment difficile à franchir, mettre un mot sur ce qui s'est passé?
Ah oui, absolument.
Des mots.
Oui. En fait, j'ai dû passer par des phases. Moi, ça a été au sortir du lycée. Je suis passée par des phases où je prenais beaucoup de risques, je buvais beaucoup, je sortais beaucoup, je me mettais en danger. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que j'étais tellement dans des situations de vie ou de mort, un peu, que, en fait, ça me semble. Enfin, il fallait que je rebondisse, il fallait que quelque chose sorte. Et c'est là où j'ai écrit une chanson, en fait, où je mettais les mots très clairement. C'était très cru. Et je l'ai chantée à mes meilleures amies. Avec qui on avait des projets de faire de la musique et puis voilà, et donc c'était comme ça que c'est sorti la première fois, mais il y avait pas de groupe de parole à ce moment-là, et puis ça change vraiment beaucoup de choses parce que du coup je pouvais pas vraiment élaborer autour, bien que j'en ai parlé à mes amis, ils comprenaient pas, enfin voilà, on n'avait pas les mêmes bases, quoi. Donc
Pia, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous décider à reprendre un petit peu votre vie, à adhérer et essayer de rencontrer d'autres femmes pour essayer de comprendre ce qui se passe?
Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir ce besoin de retrouver un savoir empirique par rapport à cette expérience. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Enfin, ce genre d'expérience, c'est tellement flou, et c'est tellement flou par rapport à la manière dont la société te le renvoie aussi, que résultat, il y a un côté où tu doutes beaucoup de toi et de ce que t'as ressenti. Et c'est vrai que d'un coup, ces groupes, ils permettent, par le biais de l'écriture ou par d'autres biais, de d'un coup te donner des aides à comprendre. Et c'est vrai que c'est ça un peu qui... Enfin, j'ai commencé à avoir une psy aussi en même temps. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je sens que il y a quelque chose qui... Enfin, c'est pas que ça passe pas, mais c'est qu'il y a quelque chose qui clique pas de son côté, ou enfin je sens qu'il y a comme
c'est plutôt
un
complémentaire, cet aspect thérapie.
Exactement.
Et puis
ouais,
les ateliers d'écriture. Anya a accompagné une victime de viol ou d'agression sexuelle, j'imagine que c'est pas une mince affaire. Comment on oriente ces femmes, comment on accompagne une fois qu'on a le récit, qu'est-ce que vous en faites, vous?
Ben déjà, quand moi je recueille les témoignages d'une victime, je vais dire que je te crois, déjà c'est vraiment fondamental de dire ça, je te crois que t'es pas coupable, en fait, parce que c'est la culpabilité, il faut la rendre, et souvent les victimes de violences sexuelles portent un poids de la culpabilité qu'elles n'ont pas apporté. Je vais lui dire aussi, le coupable c'est lui, il n'avait pas le droit, c'est la loi, et en fait on est là pour elle, en fait, quand quelqu'un se confie à nous, ben voilà, je suis là pour toi, et de quoi tu as besoin, donc voilà, si on est... Si on n'est pas un professionnel de l'accompagnement, c'est vrai qu'on peut orienter, par exemple, vers des associations où il y a des numéros d'appel anonymes et gratuits, voilà, vers des groupes de parole, vers quelqu'un spécialisé de l'accompagnement de la personne, comme un thérapeute, par exemple. Mais je pense vraiment ce qui est fondamental quand on recueille la parole d'une victime, c'est de dire voilà, qu'on la croit. Quelquefois, en fait, quelqu'un se confie, elle ne cherche pas de solution, elle n'attend pas qu'on lui dise « faut que tu fasses ça, je te conseille ça ». En fait, la personne a besoin de déposer, on a besoin de libérer sa parole, et le fait de savoir que la personne en face peut écouter de façon bienveillante, ça change beaucoup de choses. Hein.
On a nos auditrices et auditeurs qui ont eu l'occasion de nous partager leur point de vue et des commentaires sur les violences faites aux femmes. On a eu une jeune activiste ivoirienne qui nous a laissé un message via notre WhatsApp. On va l'écouter ensemble, elle s'appelle Grace.
Bonjour à tous, je suis mademoiselle Grace Bizois, étudiante en master de droit public à l'université Feswe-Boigny de Cocody d'Abidjan. Par ailleurs, militante active de défense des droits de la jeune fille, ambassadrice anti-viol et présidente de l'ONG Ruban Violet. J'aimerais ce jour aborder la stigmatisation de la société vis-à-vis des personnes victimes de viol. Ce sujet me tient à cœur parce que le viol reconnu, selon le statut de Rome, comme un crime de guerre et un crime contre l'humanité, n'est pas puni à la hauteur de sa qualification dans nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire. Longtemps, on s'est demandé à qui la faute, mais dans l'ordre chronologique des causes, selon la division des droits de l'homme venue en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale pour investigation, a dit que les victimes n'arriveraient pas à dénoncer à cause du regard de la société vis-à-vis d'elles. Ces victimes ont peur d'être jugées, de ne pas être crues, d'être incriminées, soit par leur comportement ou leur style vestimentaire avec des phrases célèbres, « Tu faisais quoi avec lui ?»« C'est toi-même qui as cherché, tu t'habilles mal, etc. » Elles ont aussi honte d'entendre qu'elles sont salies, qu'elles sont déshonorées, qu'elles déshonorent la communauté, la famille, etc. Tous ces préjugés renferment la victime parce qu'elle ne se sent incomprise. Humiliée, les conséquences sont fatales, allant jusqu'à l'inciter même au suicide. Mais pire, le violeur court les rues sans se soucier de quoi que ce soit. Alors j'aimerais interpeller la famille, amis, connaissances, proches, personnes de victimes de viol, d'encourager ces victimes à passer ce cap. Nous devons leur démontrer notre amour et les inciter à dénoncer sans se soucier de ce que les autres diront et rassurer qu'elles ne devraient pas avoir honte et qu'elles doivent tout mettre en œuvre en passant par les moyens légaux pour que justice leur soit rendue. Aussi, papa, maman, lorsqu'un enfant vous interpelle sur des attouchements ou des comportements bizarres que certaines personnes ou membres de la famille ont, à leur égard, ne banalisez pas cela. À quoi servira un enfant de mentir sur un sujet qu'il ne maîtrise même pas? Écoutez-le, car c'est sa manière à lui de dénoncer le début d'un viol.
L'écoute, une place primordiale finalement dans ce processus de reconstruction, l'écoute des entourages grâce à évoquer des réactions parfois très très négatives des proches. Daphné, comment ont réagi vos proches, vous, justement, en plus c'était votre frère qui vous a violée?
Mes proches... dans le cercle très restreint, donc c'est-à-dire mes parents, c'est-à-dire que j'ai compris que ma mère avait eu conscience de ces violences, et puis de par mon engagement aussi, enfin féministe, de par mes valeurs humaines aussi. J'ai pas pu tolérer ça, en fait. J'ai pas pu tolérer que ma mère...
garde le silence, voilà. En sachant ce qui s'est passé.
C'est ça. Et puis, en fait, n'admette même pas. Une fois qu'elle me l'avait dit, elle n'a même pas admis l'avoir vu, non plus. Donc, c'était un double déni, en quelque sorte. Donc, j'ai décidé de couper les ponts. Donc, ça a été très, très dur. Mais c'est vrai que du coup, dans les
avec groupes, l'ensemble des membres de la famille.
Avec mon entourage très proche. Par contre, mes cousines, je reste très proche d'elles. Et puis après, je reste ouverte au reste de la famille. Mais c'était très important pour moi, en fait, de pas me laisser malmener. Enfin, de pas avoir l'impression qu'on me volait mon énergie donc j'ai préféré vraiment couper les ponts avec eux physiquement, même si quelque part je décide de les pardonner intérieurement, parce que je me pardonne à moi-même en fait toute la violence, toute la négligence que j'avais intériorisée et qui a fait que j'ai pris tant de temps pour parler, mmh. Et que quelque part une partie de moi doute encore de cette histoire et de mon vécu.
Pia, vous, vers qui vous vous êtes tournée et qu'est-ce que vous n'avez pas entendu que vous auriez aimé entendre après avoir raconté les faits?
Ben, comme je disais, moi je ne l'ai pas raconté à beaucoup de gens autour de moi. Je l'ai raconté donc récemment à des amis, à ma coloc, à mon copain... Et pour le coup, c'est des gens qui ont eu à chaque fois des réactions assez justes, quoi, qui étaient beaucoup dans l'écoute. Et c'est vrai que c'est ce que disait Anya, au final, parfois, c'est déjà assez puissant, en fait, de juste écouter quelqu'un. Mais après, c'est plus parfois, j'ai l'impression, en fait, c'est dans les conséquences que laisse ce trauma-là. Je sais que, par exemple, chez moi, ça fait que j'ai... je suis incapable de me défendre et je suis incapable d'arriver à dire les choses que je pense ou d'arriver à dire les choses que j'aime pas. Et je commence à comprendre aujourd'hui que c'est un des résultats de ce trauma-là. Et c'est vrai que, par exemple, bah, ça, c'est quelque chose avec lequel parfois des gens ont pas de patience ou ou ne comprennent pas ou que ça agace. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de faire comprendre à quelqu'un que ben un trauma c'est pas quelque chose de linéaire et de comme on se l'imagine dans la tête, c'est-à-dire que enfin en soi je suis quelqu'un qui va relativement bien tous les jours, mais c'est juste que parfois ça va s'exprimer de manière très particulière et très précise et c'est compliqué de d'un coup dire bon ben OK je comprends que ben voilà, c'est peut-être lié à ce qui t'est arrivé, enfin c'est compliqué en fait d'expliquer ça, d'expliquer comment le comment les conséquences ressortent et parfois ben ouais ça prend de la place, parfois c'est pas c'est brouillon, enfin.
Alors on dit quoi? Jaranjai.
Vous écoutez alors on dit quoi? Le viol est notre thématique aujourd'hui. La personne victime d'un viol ne sera jamais plus comme avant. Une phase de reconstruction est impérative pour aller de l'avant. Viol, l'instant d'après, c'est ce samedi dans Alors on dit quoi? Et tout de suite, place à notre pause musicale avec Till It Happens to You, la chanson de Lady Gaga pour dénoncer le viol sur les campus américains. C'est sur une mélodie principalement composée de violon et de piano. Elle évoque en musique le viol dont elle a été victime lorsqu'elle avait 19 ans. On écoute.
You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know, till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels, till it happens to you, you won't know, it won't be real, no it won't be real. Won't know how it feels. You tell me hold your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move.
Les violences sexuelles sont des violences à caractère sexuel avec ou sans contact physique, commis par un ou plusieurs individus avec violence, contrainte, menace ou surprise. J'ai trouvé ça très abstrait, hein, mais bon, c'est-à-dire en tout cas qu'il n'y a pas de consentement de la personne visée. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de consentement qui est fondamentale ?
Tout à fait. La notion de consentement est vraiment essentielle parce que c'est ça qui différencie d'un acte consenti. J'estime en fait que tout est acceptable dans une relation s'il y a le consentement des personnes. Et dès qu'il manque le consentement d'une personne, et ben c'est là qu'il y a des violences sexuelles. Donc soit un viol ou voilà une agression sexuelle, c'est qu'il manque le consentement d'une personne. Hein. Et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et à intégrer.
Pia, vous, votre travail artistique évoque aussi cet aspect de consentement, puisque vous faites de la photographie et vous illustrez ce qu'on appelle le BDSM. Alors d'abord, peut-être expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce BDSM et nous dire comment, justement, ce BDSM vous aide dans le chemin de la reconstruction.
Mais en fait, ça fait partie un peu de... En fait, ouais, je travaille dans le milieu du porno alternatif, ou qu'on peut appeler le post-porn. Donc, on va dire qu'il y a un porno féministe, militant, et qui vient d'un mouvement des années 70, féministe, américain, qui considérait qu'en fait, le sexe pouvait être un outil politique, un outil de dénonciation, et un outil aussi d'émancipation pour les femmes. Et en fait, c'est quand j'ai découvert ce milieu, qui m'a toujours un peu fascinée, que j'ai découvert une communauté et en fait des personnes qui sont justement très au fait des violences sexuelles, qui sont aussi très déconstruites dans leur leur rapport au consentement, dans leur rapport au genre, dans leur rapport
à la
sexualité.
Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé entre les partenaires qui pratiquent
en fait le BDSM? Alors c'est pas vraiment un contrat, c'est en fait donc le BDSM c'est bondage, domination et sadomasochisme. Exactement. En fait, c'est donc c'est des pratiques sexuelles qui font appel à des formes de violence, mais pas forcément. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une communauté qui m'a vraiment appris le consentement dans cet aspect où on parle beaucoup. Et c'est beaucoup de dialogue, en fait, avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est de parler de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qu'on a envie d'essayer, c'est mettre en place aussi des mots qui permettent d'arrêter au milieu si on veut plus, vu que forcément, parfois le oui et le non peuvent faire partie du jeu, en fait, de vouloir dire non, de vouloir dire arrête, ça peut faire partie du jeu, donc on met en place des codes, en fait, qui permettent de dire, on calme un peu le jeu, ou on arrête complètement, ou tout va bien. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est que il y a un après, qui est hyper important, qui est aussi l'idée de... Parce que peu importe les violences, même si elles sont consenties, le corps le vit forcément un peu durement. Donc c'est important de faire comprendre au corps que ça va, que c'était qu'un jeu. Et en fait, cette chose-là, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue que... En général, les gens du BDSM, on les considère un peu comme des gens un peu chelous, un peu pervers. Alors qu'au final, ils ont tout compris sur la sexualité. En fait, ils ont tout compris. Et on devrait... alors, on appelle la sexualité vanille les gens qui ne font pas de BDSM. En fait, les sexualités vanille sont des sexualités souvent malsaines, en fait. Parce qu'elles n'ont pas cette part de dialogue qui est importante. Et on a tendance à dire que parler, c'est pas sexy. Ça fait perdre le truc de l'action. Alors que pas du tout, en réalité, arriver à dire « j'aime ça », j'ai envie que tu me fasses ça, ça me plaît. C'est hyper fort, en fait, ça a un pouvoir, et ça a un pouvoir déjà de comprendre le consentement de l'autre, mais aussi de savoir ce qu'on aime dans sa propre sexualité, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça a été pour moi une découverte, et ça m'a permis justement de me reconstruire par rapport à ce qui m'était arrivé, en me disant, c'est ça la sexualité, en fait, c'est ça, dire ce qu'on veut, savoir le dire, entendre l'autre le dire et le respecter. Et vraiment, cette communauté-là, elle m'a beaucoup apporté pour ça, quoi.
Mmh. Daphné, après avoir vécu un viol, ce n'est pas simple de reprendre une sexualité normale ?
Alors, non. En général, non. Je pense, dans la plupart des cas, non. Dans mon cas, c'était très compliqué. Mais bon, c'est aussi ce qui fait partie de la vie. C'est beaucoup de phases, en fait, des phases où on veut tout explorer, on veut un peu voir les limites, en fait, du consentement aussi, et percevoir ses propres limites, être vraiment dans le contact de à la fois de ses désirs, mais des limites de son désir, et peut-être essayer de trouver ce point où il faut où on s'autorise en fait à dire non, où c'est trop, quoi. Et puis aussi des phases de culpabilité, en fait, où je me suis sentie coupable d'avoir du désir. Et donc voilà, donc une sorte de de réappréhension de...
Est-ce qu'il y a du dialogue qui s'instaure avec votre partenaire? Vous lui avez expliqué justement ce qui s'était passé pour essayer de balayer un petit peu le terrain?
Mais alors là, actuellement, je n'ai pas forcément de partenaire, parce que justement, je suis dans une phase un peu d'asexualité, où j'essaie de me concentrer sur d'autres aspects, en fait. Et puis, de redécouvrir mon propre désir, et aussi de reprendre contact avec moi. Enfin, je trouve que la masturbation, c'est très important, et surtout pour les femmes, parce que voilà, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est pas quelque chose qui est admis, c'est pas un organe qu'on connaît, c'est un organe qu'on apprend à mépriser. Et puis sinon, dans mes relations passées, c'était un aspect très important et j'ai toujours abordé.
Anya, est-ce que vous êtes confrontée, vous aussi, à des femmes qui essayent de se reconstruire et qui veulent parler aussi de leur reconstruction sexuelle, de cet aspect très privé après avoir été victime de violences sexuelles?
Tout à fait, parce que ça touche à la réappropriation de son propre corps, en fait. C'est-à-dire, le désir, c'est aussi, comment, comme disait très bien Daphné, comment... apprendre à se connaître, se réapproprier son corps, comment se faire du bien, parce qu'on peut pas attendre de quelqu'un d'autre qui nous fasse du bien si on ne sait pas se faire du bien soi-même, en fait. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ça, c'est pas que les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, même des personnes qui n'ont pas vécu ce type d'épreuve, peuvent aussi avoir ces soucis au niveau de la sexualité. Donc ça passe vraiment par la connaissance de soi, en fait. Et ça, c'est un apprentissage de toute une vie. Et c'est vrai que dans l'association, je fais aussi des groupes axés sexualité avec des sexologues bénévoles. Donc ça parle de désir, du rapport à son propre corps, ça parle de sexualité.
Ça fait aussi partie de la phase de reconstruction.
Tout à fait, ça fait vraiment partie de la reconstruction, en fait. Et ça, c'est un travail sur soi, en fait, d'abord. C'est apprendre à se connaître soi et comment se rapprocher son propre corps. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, guérir ses blessures.
En parlant de blessures, là, on essaye en tout cas de s'en éloigner pour vos trois parcours. Quels sont vos projets, Pia, aujourd'hui?
Mon projet, justement, en ce moment, c'est de créer un collectif de création pornographique. Donc, avec, on est une petite quinzaine et c'est le tout début. Et je réfléchis beaucoup, j'ai pas mal envie aussi de me diriger vers l'éducation sexuelle dans les lycées et dans les collèges. Je trouve que c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment fondamental, en fait, et aussi qui est très lié à la pornographie. C'est-à-dire que je pense que la pornographie a cette responsabilité aussi de parler sur la pédagogie et de... vu qu'elle est le premier aujourd'hui moyen de connaissance de la sexualité et que c'est un danger quand c'est une pornographie qui n'est pas réfléchie, il est important que la pornographie s'exprime aussi et montre que c'est une fiction, fasse comprendre les enjeux de la sexualité. Et c'est vrai aussi que je pense qu'en tant que... en tant que quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, j'ai aussi envie de parler à des jeunes et leur montrer qu'en fait, ça va. Et que
donner espoir, finalement.
Ouais, exactement, ouais, que en effet la parole, quand elle se libère, c'est un beau chemin à prendre, en fait. Enfin, voilà.
Donc parlons.
Ouais, exactement.
et pour vous, Daphné, aujourd'hui, où en est cette phase de reconstruction?
Je dirais que je suis toujours au début de ma phase de reconstruction, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que c'est un processus continu, que j'en arriverai jamais au bout, en fait, sans avoir conscience de l'origine un peu de qui je suis, parce que c'est quand même un événement marquant. Et je me rends compte que j'ai sans cesse besoin de me marquer, mais à travers des moments positifs, en fait, de faire des actes un peu symboliques pour me donner de l'ampleur à des moments positifs, des moments mais pas seulement des moments où, en fait, je me sens actrice de ma vie. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu abstrait, mais qui résonne pour moi. Sinon, j'ai J'ai le projet de faire de la broderie avec des autres membres des groupes de parole. Et puis de trouver des mots en fait qui pourront symboliser notre vécu chacune. Et donc se réapproprier un peu le langage et l'usage des mots. Et pouvoir avoir ce lien en fait symbolique aux mots, mais pas forcément leur attacher une définition bien précise. Et puis les broder en fait sur du textile, parce que je trouve que dans la broderie il y a quelque chose d'assez subversif en fait. C'est un apprentissage, c'est un savoir-faire féminin, mais c'est aussi un savoir-faire qui se fait qui s'apprend un peu dans l'ombre ou qu'on ne valorise pas en fait socialement. Donc je trouve que dans ce sens-là c'est quelque chose, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve que la symbolique est forte.
Est forte. Ouais. Agnès, on arrive déjà à la fin de cette émission. L'association Les Résilientes fait déjà beaucoup, pourtant elle a été créée il y a peu. Quels sont aujourd'hui vos projets et peut-être même vos besoins? Comme ça, on fera un appel au soutien de cette association qui mène un excellent travail auprès des victimes de viol et de violences sexuelles.
Les besoins pour l'association, c'est de pouvoir développer encore plus de groupes de parole. Donc, puisqu'actuellement, j'ai beaucoup de personnes en liste d'attente, j'ai quasiment une centaine de personnes qui attendent l'ouverture de nouveaux groupes. Donc, j'aurais besoin de bénévoles pour animer ces groupes-là, de salles en fait, à ma disposition, puisqu'en fait, l'association est à but non lucratif et les personnes en fait, sont entièrement bénévoles, comme moi, en fait, je suis entièrement bénévole aussi dans l'association. On a besoin de financement, d'argent, parce que c'est vrai que pour créer de nouveaux ateliers, nouveaux groupes, pouvoir faire plus, en fait, on a besoin de soutien financier, donc la part de mécènes ou de particuliers qui veulent s'engager à la hauteur de leurs moyens dans l'association. Et j'ai des demandes, en fait, de la France entière. C'est vrai qu'il y a un an, j'ai créé les groupes de parole à Paris, il n'y avait pas d'autres associations qui faisaient ça. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Et aujourd'hui, j'ai d'autres villes qui me contactent pour me demander de l'aide pour créer leur structure dans les autres villes de France. Donc, c'est vrai qu'à Paris, il n'y avait quasiment rien. Donc, dans d'autres villes de France, il est peu probable qu'il y ait beaucoup plus. Donc, j'ai vraiment des demandes, en fait, de former des gens pour créer leur structure, que je les forme moi, en fait, pour animer des groupes de parole. Donc, et pour ça, c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Si je dois me déplacer dans d'autres villes de France, animer d'autres groupes, former les gens et les aider à trouver leur structure. C'est-à-dire que moi, je suis partie de zéro, j'avais rien, j'ai créé mon asso, j'ai dû trouver des salles. C'est vraiment système D, mais ça, je peux le faire, mais toute seule, j'atteins mes limites. Donc voilà, des bénévoles, des salles, et puis toutes les personnes qui veulent m'aider en fait, dans ce projet-là, qui est un beau projet en fait, d'aider les personnes à se reconstruire. En fait. Et c'est vraiment quelque chose porteur d'espoir et tout le monde est touché, soit directement, soit indirectement en fait.
Merci, merci beaucoup les filles, merci pour votre courage, pour l'accueil également au sein des locaux des Résilientes, merci pour votre participation et merci de nous avoir éclairés et peut-être même pour le déclic que vous allez déclencher auprès d'autres femmes ou hommes qui ont eux aussi été victimes et qui n'osent pas encore briser le tabou. Et c'est la fin de cette émission. Alors on dit quoi ? Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam Daba et Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine sur RFI. Oubnoun Ragongol, à bientôt.
Tout à l'heure sur RFI.